Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Deuxième partie de notre rendez-vous santé, je vous rappelle que le standard est ouvert, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez poser vos questions à notre spécialiste sur la thématique ou nous raconter vos histoires au 01 55 07 58 00. Alors tous les parents peuvent l'observer, avec l'entrée dans l'adolescence, c'est de plus en plus difficile d'envoyer ses enfants au lit. D'après l'étude de Santé publique France, 30% des 15-19 ans sont en déficit de sommeil important. 25% des adolescents dorment moins de 7 heures par nuit, or qu'ils devraient dormir près de 9h30 pour être en pleine possession de leurs moyens, et ce, toute la journée. Alors l'enjeu est de taille, vous le comprendrez, car c'est dès l'enfance et l'adolescence que se forgent les bonnes habitudes dans l'hygiène du sommeil. Le phénomène s'aggrave ces dernières années avec la surexposition aux écrans. Selon une étude du CSA parue en 2016, 93,9% des foyers français déclarent avoir un téléviseur. Ajoutez à ce chiffre les ordinateurs, les tablettes portables, les tablettes. On dénombre aujourd'hui entre 5 et 6 écrans par foyer. Bien que tous ces équipements soient extrêmement pratiques, tous ces écrans perturbent le sommeil de nos enfants et de nos adolescents, très grands consommateurs de réseaux sociaux et de jeux vidéo. Je ne vous apprends rien. Alors on en parle ce matin avec notre invité déjà installé sur le plateau de la radio africaine. J'accueille le docteur Marie-Françoise Vecchirini. Merci de nous rejoindre, docteur. Merci de vous être rendu disponible. Vous êtes neuropsychiatre au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu. C'est à Paris. Alors tout d'abord, ces chiffres. 30% des 15-19 ans sont en dette de sommeil. Ça représente quand même un adolescent sur trois, ce qui est quand même considérable, docteur.
Oui, certainement. D'ailleurs, toutes les enquêtes confirment ces chiffres. Et l'Institut national du sommeil et de la vigilance a fait, il y a quelques années, une enquête sur la tranche d'âge 14-19 ans, et cette année sur la tranche d'âge 15-24 ans. Et ces deux enquêtes confirment la difficulté qu'ont les jeunes à s'endormir, et comme le réveil est imposé par les activités quotidiennes et la classe ou déjà les activités en apprentissage, eh bien le temps de sommeil se réduit drastiquement, avec des conséquences très néfastes pour la vie dans la journée.
Est-ce que les adolescents dormaient mieux il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, docteur ?
Alors, est-ce qu'ils dormaient mieux ? C'est une très bonne question, je ne sais pas exactement, mais ils dormaient plus.
Oui.
Parce que si vous allez, par exemple, sur le site de l'INPES, l'Institut national pour l'éducation, eh bien, vous apercevez qu'on peut concevoir qu'en 25 ans, ces adolescents, ils ont perdu presque un peu moins d'une heure de sommeil.
Ce qui est quand même considérable.
Ce qui est considérable, d'autant qu'on sait qu'à l'adolescence, avec les transformations physiques liées à la puberté notamment, qui va s'étaler sur des années, et liées aussi aux modifications relationnelles qu'ont ces adolescents, parfois un passage de vie émotionnellement difficile, eh bien, ils ont besoin de conserver un sommeil qui est estimé dans autour de 9 heures.
Alors,
donc le déficit est important.
Et
il se répète de jour en jour.
Puisque ce sont des heures de manque de sommeil qui s'accumulent. Et voilà pourquoi on appelle ça la dette de sommeil, docteur.
Absolument, vous avez raison. Cette dette de sommeil est liée à la différence entre le besoin et le temps de sommeil réel de ce que passent ces adolescents à dormir. Et surtout, ce que vous disiez à l'instant, qui est important, c'est que c'est chronique. C'est-à-dire que ça se répète de jour en jour. D'ailleurs, il y a une caractéristique aussi de ce sommeil.
Oui.
C'est celui du week-end, qui est totalement différent.
Où on essaie de se rattraper un peu.
De celui de la semaine. Mais le week-end, ils se décalent beaucoup.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils vont encore se coucher beaucoup plus tard, mais se lever beaucoup plus tard. Donc il y a une petite récupération dans le temps de sommeil, qui est souvent insuffisant par rapport à la dette de sommeil. Mais cette récupération aussi déséquilibre nos rythmes de vie, qui sont des rythmes sur 24 heures. Et ces rythmes qui veulent dire que le soir, s'ils se sont levés par exemple à 11h ou midi, ce qui est très classique le samedi et le dimanche, eh bien le soir ils vont avoir encore plus de mal à s'endormir. Parce qu'il faut être éveillé un certain temps pour que la pression soit suffisante pour qu'on ait envie de dormir.
Alors nous allons les entendre, ces jeunes, nous parler de leur rapport au sommeil. On les écoute et on se retrouve juste après, docteur.
je dors vers 23h minuit et je me réveille à 6h. Je suis fatiguée le matin. Enfin, ça dépend des jours. En début de semaine, ça va et après, c'est plus difficile. Le week-end, je dors moins que la semaine parce que j'ai plus de temps libre.
Moi, je rentre, je dors. Je trouve le sommeil direct. Je dors 5h, 4h. Je rentre tard et je sors tôt. C'est... Un jour, je vais arrêter tout ça. Pour l'instant, je suis bien.
Si, je me sens fatiguée. Enfin, ça dépend des moments de la journée. Moi, je dors pas beaucoup. Je sais pas, ça dépend de si je suis sur mon téléphone, si je regarde la télé ou si je vais me coucher directement ou pas. Franchement, 7h, 6h, un truc comme ça. Mais bon, quand je me réveille, je suis quand même un peu fatiguée. Je fais des siestes en cours.
Je dors beaucoup. Je me sens pas bien dans l'aspect. Je suis toujours fatiguée. J'ai toujours envie de dormir plus. En cours, pendant la nuit.
Des fois, ça m'arrive d'être fatiguée. 4 fois dans la semaine. 4h, ça me suffit pas, mais... C'est comme si un peu j'étais obligé, je me réveille même si je suis fatigué. Chaque matin je suis fatigué de ouf. Non, mais des fois je dors dans la journée quand j'ai rien à faire. 1h, 30 minutes après c'est bon. C'est comme si j'avais dormi 20h à midi. Il y a un an d'ici je faisais pas ça. Je dormais à 2h, je me réveillais à midi.
Je fais minuit complète. Je dors vers 23h et je me réveille à 6h.
Alors c'est très criant hein, dans ce micro-trottoir, docteur. On voit que la plupart de ces adolescents ignorent l'importance et le fonctionnement du sommeil. Et surtout, ils ont l'impression de perdre du temps et que le sommeil les empêche de faire autre chose.
Oui, c'est vrai. C'est un âge aussi où les jeunes cherchent à avoir du temps pour eux.
Oui.
Et d'être un peu loin des parents, loin d'avoir... Et leur chambre représente peut-être cet espace... où ils sont plus individualisés et où ils peuvent mener leur propre vie. Alors, bien sûr, mais en même temps, ce que l'on voit très bien, c'est que ça dérape. Ouais. Ça dérape de façon importante, puisque d'après ce que j'ai entendu, j'ai compris qu'ils dormaient entre 4 et 6 heures en moyenne.
Ouais.
Ce qui est très inférieur à leurs besoins. Et eux-mêmes reconnaissent, le mot qui revient le plus souvent, c'est « je suis fatiguée
ouais. ».
Je suis un peu somnolent, puisqu'en classe, ils tendent à s'endormir.
Oui, des siestes en cours.
Voilà, je fais des siestes en cours. Alors, c'est pas le cours, c'est pourtant pas le lieu idéal pour faire la sieste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce manque de sommeil a une répercussion aussi sur leur vie intellectuelle et leur pouvoir. Et que moins ils vont avoir de sommeil, moins il y a de mémorisation qui est faite par rapport à l'école, par oui. rapport à l'information donnée, et aussi moins il y a d'attention et de concentration. Donc ils sont handicapés dès que ça devient un peu compliqué, disons.
Oui, oui.
Si c'est pour apprendre les tables de multiplication, ça va encore. Mais dès qu'on demande un effort intellectuel sur quelque chose, une notion plus abstraite, par
oui,
exemple,
oui.
eh bien là, le manque de sommeil se fait tout à fait sentir dans les résultats.
Alors, on voit aussi cette défiance vis-à-vis de l'autorité parentale, ce manque de compréhension entre les générations hein, par rapport au sommeil. Et c'est vrai que nous aussi, on a été adolescents, on est passé par là. On a un peu l'impression que c'est une période où c'est un passage obligé de se chercher, de ne pas vouloir dormir et de vouloir grignoter du temps pour faire autre chose et vivre aussi le début de sa vie d'adulte, docteur.
Oui, c'est tout à fait vrai, ça rentre dans la participation à dormir très tard, c'est tout à fait vrai. En même temps, il faut savoir mettre des limites.
Oui.
Et là, les limites, elles peuvent se passer dans le jeu familial, ce qui demande que les parents soient attentifs au sommeil, connaissent un peu le sommeil, que les parents servent d'exemple aussi, parce
oui.
qu'on voit des familles où eux-mêmes, les parents, sortent beaucoup ou se couchent très tard pour différentes raisons. Et puis, l'important, c'est de garder le contact et le dialogue. Un dialogue qui n'est pas fatalement dans le jugement
oui.
et encore moins dans le rejet,
oui.
mais un dialogue qui se passe et qui explique pourquoi on essaie de mettre des limites qui est quand même de conserver une heure, un temps de sommeil suffisant. En sachant qu'à oui. l'adolescence, physiologiquement,
justement,
il y a quelques difficultés à trouver le sommeil.
Rappeler aux enfants, aux parents, pardon, que ces adolescents traversent des périodes assez troubles, hein, vous venez de le dire, des dérèglements hormonaux, parce que souvent on a l'impression qu'ils sont un peu paresseux. Oh, j'ai la flemme. Quand on les envoie, quand on leur demande de se bouger un peu, on a l'impression que ils sont feignants, alors qu'en fait, c'est physiologique, docteur.
Alors, il y a un aspect physiologique, hein, qui est lié à la puberté, qui est un passage sur X années qui est là. Et donc, oui, il y a un aspect physiologique. En même temps, il faut garder des limites et savoir que ce manque de sommeil va être préjudiciable aussi à leur développement. Parce que vous savez très bien qu'au cours du sommeil, se fait toute une physiologie
oui.
importante, notamment, puisque vous parlez de la puberté, notamment la production d'une hormone qui leur permet de grandir.
Oui.
Et c'est moins ils vont dormir, plus ils vont dormir très très tard, moins leur de sommeil va être physiologiquement constitué et plus ils risquent d'avoir des défects, des manques dans la production de certaines hormones et dans la reconstitution de leurs forces et de leurs protéines, par exemple.
Alors, on va les retrouver, hein, ces jeunes, ils vont nous dire un petit peu quels sont leurs rituels avant d'aller dormir, qu'est-ce qui les empêche de s'endormir. On les écoute et on se retrouve juste après, docteur.
Je reste une heure sur mon téléphone avant de dormir, je parle avec des gens. Ma mère, elle me prend la tête, enfin, elle me demande d'arrêter le téléphone après une certaine heure et tout, mais bon.
Des fois, je me mets dans mon lit vers 21h, 20h et jusqu'à 1h, un truc comme ça, je suis sur mon téléphone. Bah, je galère. Je regarde des vidéos sur Insta, sur YouTube. Et je parle avec des gens, tout ça. Des fois, ma mère, elle me prend la tête en mode. Elle prend mon téléphone, tout ça, mais je vais le récupérer en cachette. En fait, c'est addictif. Genre. Des fois, j'ai envie de dormir tôt, tout ça. Après, je commence à toucher mon téléphone et je m'arrête plus. Je vois pas l'heure passer, en fait.
Je reste sur mon téléphone. Je peux rester 30 minutes, 2 heures. Je sais pas, ça dépend. Ouais, je galère, faut que je m'occupe, sinon.
En fait, quand je rentre tard, j'arrive pas à dormir. Je joue à la play, je vais manger. J'essaie d'occuper le temps. Si je rentre à 4 heures, je vais dormir à 6 heures et demie. Après, je vais me réveiller à 10 heures et demie. Après, à 10 heures et demie, je serai fatigué. Peut-être que je vais me rendormir jusqu'à 11 heures.
Je suis sur mon téléphone. Oui, ça peut durer longtemps. Je suis sur les réseaux sociaux. C'est le matin, ça pèse. Je me rends compte que j'aurais pas dû.
Alors, on le voit bien, hein, docteur, et on le savait déjà, hein, réseaux sociaux, jeux en ligne, téléphone portable, vidéo, ce sont des activités qui grignotent sur le temps de sommeil des jeunes. Ils ont du mal à s'en détacher. On parle d'addiction. Le matin, je m'en rends pas compte. On a l'impression que ces jeunes sont drogués, en fait.
Alors, il est exact que comme ils ont du mal à s'endormir, eh bien, ils font ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire qu'ils vont aller regarder Internet, quel que soit le téléphone portable, l'écran. Et on sait que ces écrans sont nocifs pour le sommeil, d'une part parce que souvent, c'est une interconnexion avec d'autres,
oui.
Où ils regardent des films. Donc, c'est une espèce d'éveil intellectuel, d'éveil émotionnel aussi. Et puis aussi, on sait que la lumière de ces écrans, physiologiquement, va aller dire à notre horloge qui nous donne l'heure et qui est dans notre tête, eh bien, c'est l'éveil, c'est le jour. Alors que c'est un signal contraire à l'endormissement. Donc, vous savez bien que maintenant, dans la pratique, il faudrait arrêter ces écrans environ une heure avant de dormir.
Et on recommande pas plus de 4 heures d'utilisation de ces écrans par jour, pas plus de 4 heures. Pourquoi ces recommandations ?
Alors, dans la journée, parce que c'est beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, la sensibilité à la lumière est particulièrement grande,
oui.
Est particulièrement grande le soir.
Plus que pour les adultes ?
Encore plus que quand la maturation va être terminée pour les adultes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une contre-mesure à aller se coucher. vraiment une contre-mesure à trouver l'endormissement, exactement.
Alors, on va écouter maintenant le témoignage. Et... Excusez-moi, docteur, vous n'avez pas terminé, pardon.
Non, non, et puis il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire souvent les jeunes dans une autre enquête disaient « je regarde un film et puis à la suite d'un autre film et puis ou un autre épisode ». Et quand c'est quelque chose par épisode, ça peut durer comme ça jusqu'à 3h, 4h du matin, ce que disent très bien ces jeunes.
Malik, nous avons rencontré Malik, responsable du site Mosaïque du quartier des Quatre Chemins, c'est à Aubervilliers. C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de parole pour les 11-14 ans. Il nous parle un peu des adolescents qui viennent au centre. On écoute, on se retrouve juste après, docteur.
Pour les 2.0, c'est la réalité. Ouais. C'est un hyperactif. Suite aussi à un manque de sommeil, c'est son comportement qui est comme ça. On a des gens qui sont très fatigués, suite comportement de sommeil. On a des gens qui se laissent vivre. Voilà, on a de tout. On en a un, ouais, de temps en temps, il vient et s'allonge parce qu'il est fatigué. C'est vrai qu'il passe la nuit sur les réseaux sociaux, surtout sur Snap. Voilà. Il y en a deux autres, ils jouent en connexion sur la Play. C'est la génération. Après, il y a les parents derrière, il faut qu'ils... Voilà. On pose la question quand on fait une intervention, on leur dit « Est-ce que vous avez un objet électronique dans votre chambre ?» Toute la classe lève la main. Les 25. Soit ils ont le téléphone, soit ils ont l'ordinateur, soit ils ont la télévision. Sur la classe, il y en a une dizaine qui s'entendent devant la télévision. Est-ce que je leur dis c'est un bon sommeil, c'est pas un bon sommeil? Ils me disent oui, c'est... Non, c'est pas un bon sommeil, on le sait, mais on a besoin de ça. Mais je dis mes parents, ils sont où? Et souvent, ils me disent bah, mes parents ne sont pas rentrés, mes parents, voilà, c'est... Plein de petites choses. Mes parents ne sont pas au courant. Voilà, il y a plein de choses comme ça.
Alors docteur, le manque de sommeil entraîne fatigue, irritabilité, somnolence notamment. Il y a d'autres conséquences. Et quelles sont ces conséquences?
Ce que dit cet éducateur, je pense, est très intéressant. C'est-à-dire que quand on est jeune, on lutte contre la somnolence et la fatigue entraînée par le manque de sommeil plutôt par une hyperactivité. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants vont pouvoir ne pas tenir en place, bouger, parce que plus on bouge, moins se fait sentir la somnolence. Et puis, avec l'âge, les adolescents plus âgés vont avoir tendance à s'endormir, eux, à être somnolents, à ne plus bouger de leur siège, avoir du mal à se bouger et à entrer en action. Donc ça, c'est ce que traduisait cet éducateur. Et c'est vrai que c'est tout à fait caractéristique de cette période où les gens, à ce moment-là, restent très longtemps inactifs. Et aussi, ce qu'il faut bien savoir, et ce que l'on disait un peu tout à l'heure, c'est que ne pas dormir du tout, ça déséquilibre nos rythmes.
Oui.
Et ça déséquilibre pas simplement la vigilance, qui est déjà très important, mais ça déséquilibre aussi les rythmes hormonaux. Et ces adolescents-là, ils ont tendance à manger davantage et à se bouger moins.
Ouais,
alors l'activité physique ou sportive, les deux sont quelque chose de très important. Et déséquilibrer aussi, c'est les rythmes des hormones qui nous disent que la nuit, on n'a pas à manger.
Oui. Hein,
et que dans la journée, l'hormone, au contraire, nous incite à aller manger.
Oui.
Ça fait le lit d'une mauvaise régulation de la nourriture. Et on sait que ça fait le lit du surpoids et de l'obésité.
Et est-ce que c'est un chemin qui peut mener vers la dépression?
Alors, ne pas dormir de façon chronique, il y a 20% des jeunes dans l'enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui disait avoir des troubles de l'humeur, c'est-à-dire se sentir plutôt pas en forme, irritable, mais avoir des idées tristes.
Oui.
Alors ça, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention à la période de l'adolescence, où il y a une espèce de régulation émotionnelle qui est encore inconstante,
oui.
Il faut toujours faire attention à ce que ce manque de sommeil chronique ne retentisse pas et ne conduise pas vers des idées dépressives.
Alors un mot sur les jeunes qui prennent des excitants, on les voit par exemple dans les transports le matin avec du Red Bull, toutes ces substances, ça peut être également du cannabis, du tabac. Un mot rapidement avant de passer à la fin.
Alors, le Red Bull, etc., c'est parce qu'ils se sentent très fatigués. Vous les mettez au lit le matin, ils s'endorment tous. Si un collège décidait de mettre les adolescents au lit le matin, ils s'endormiraient tous.
Ouais.
Ils finiraient leur nuit, qui a été insuffisante et décalée. Concernant le cannabis, on voit effectivement un nombre croissant d'adolescents qui consomment le cannabis pour s'aider à s'endormir le soir. Oui. C'est souvent cette technique-là. Le danger, c'est que quelquefois les doses augmentent, qu'elles deviennent un peu chroniques, qu'elles s'étendent aussi dans la journée, etc.
Alors, on va écouter la question d'une maman qui est très inquiète avec ses deux adolescents qui ne dorment pratiquement plus. On l'écoute et on se retrouve juste après pour essayer de donner des pistes aux parents qui nous écoutent.
Bonjour. Comment faut-il procéder pour amener les enfants à se déconnecter de cet outil qui les déconnecte carrément de la réalité? Moi, en tant que parent, je vois que c'est néfaste, c'est dangereux. Ça amène les enfants à se détacher carrément de la réalité. J'ai une fille qui a 19 ans, mon garçon a 15 ans et le petit dernier a 8 ans. Je vous dis, ils sont tellement accros à tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, informatique et aux jeux vidéo également. Ils rentrent dans des colères pas possibles lorsqu'on leur demande d'arrêter souvent. Et même pendant les repas, même à table pendant qu'on mange, ils sont encore dans leur téléphone, quoi. Gros problème que j'ai en ce moment avec les deux plus grands. Mais bien sûr qu'ils ne respectent pas du tout. Je vous promets que ma gamine, elle ne dort plus. Et je me demande si elle fait des nuits de plus de 3 heures. C'est devenu une maladie pour elle. Franchement, je vous assure que ça me fait peur.
Alors cette maman est en plein désarroi, entre guillemets, docteur. Alors comment faire? Quelles sont les pistes que l'on peut donner avant de terminer aux auditeurs qui nous écoutent?
Bien, peut-être, je dirais, un versant éducationnel.
Oui.
Hein? Quelle est l'importance des choses? Quel est le retentissement pour la vie ultérieure de ne pas dormir? Et trouver avec ces jeunes aussi d'autres activités.
Sortir.
C'est-à-dire qu'il faut avoir un choix plus élargi de possibilités que simplement
leur montrer qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie que
absolument et peut-être aussi faire une action synergique avec certains enseignants qui mettent le doigt sur les conséquences délétères de ce qui se passe par le manque de sommeil et de faire une action synergique d'information, d'éducation et de motivation à faire autre chose que simplement les objets connectés. Et cette maman, il faut surtout qu'elle fasse attention aussi aux plus jeunes,
oui,
et qu'elle apprenne avec lui, dans un cadre affectueux, de mettre des limites.
Il y a des centres de sommeil, il y a des consultations, hein, si vous avez des problèmes, si vous en rencontrez avec vos adolescents, notamment le centre de sommeil de l'Hôtel-Dieu où vous pratiquez. C'est un place du Parvis de Notre-Dame dans le 4e arrondissement à Paris. Il y a également le réseau Morphée à Garches. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 09 77 93 12 04. Et toutes les informations utiles seront disponibles sur les réseaux de la radio africaine avec cette émission qui sera téléchargeable dans quelques minutes. Alors, petite conclusion, docteur, on a dit beaucoup de choses sur le sommeil de nos adolescents. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission?
Moi, je dirais aimer ces ados, les respecter, mais ouvrir le dialogue avec eux et essayer de mettre des limites quand ça dérive de trop et peut-être faire une synergie dans l'éducation au sommeil.
Alors Fenda, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste juste quelques secondes. Vous avez écouté le témoignage de la maman et vous dites que
oui,
ce n'est pas évident, vous êtes solidaire de cette maman, c'est ça?
Non, mais c'est ça exactement. C'est vrai que c'est avec de nos jours, c'est très très compliqué hein, pour les même les tout petits, parce que comme la maman, j'ai entendu, elle disait qu'elle avait quelqu'un qui était le plus grand avait 8 ans et moi c'est dans ces âges-là, mon plus grand a 9 ans. Et c'est vrai que des fois c'est très compliqué en fait. Voilà, vraiment il faut mettre des barrières, dire stop. Il y a un temps pour tout, mettre des limites. Moi c'est ce que j'essaie de faire, une heure et demie maximum.
Génial.
Et des fois voilà. Et des fois donc toute cette semaine, je leur ai dit que quand il y a école, il y a pas de télé. On regarde la télé que le week-end, donc, mais c'est très difficile. Parce que
bravo, Penta.
Voilà. Je suis en guerre avec eux.
Oui, mais j'imagine.
Voilà.
Merci.
Quand il fait beau, comme hier, c'était bien.
Oui, ils sont sortis un peu, ouais.
Voilà, quand il pleut, c'est pas évident de les occuper à la maison. Donc,
merci,
ça, aussi,
merci. Justement, voilà. on termine avec ce beau témoignage, cette émission. Merci beaucoup, docteur, de vous être rendu disponible. À très bientôt, il est 9h54. On va marquer la petite pause. Et la suite d'Ambiance Africa, c'est dans un instant, bougez pas.